France Culture. Olympe Versigny, bonjour.
Bonjour Caroline.
C'est le dernier épisode, le cinquième.
Oh, c'est triste.
Déjà. Un épisode au cours duquel nous allons naviguer dans les arts, pas seulement la cuisine. La cuisine, bien sûr, parce que ça a été le fil conducteur de votre vie. Mais il se trouve, vous nous le disiez dans le premier épisode, que vous avez grandi avec une mère qui était peintre, artiste peintre, et qui aimait beaucoup aussi, comme votre grand-mère, les brocantes, aller chiner, et vous emmenait chiner et assister à ces séances de peinture. Est-ce que ce sont des choses, cette éducation aux arts que vous avez eue, qui sont restées tout du long et qui vous ont rendu aussi sensible que vous l'avez été toute votre vie à la peinture, à l'esthétique des assiettes aussi, à tout ça?
Évidemment. Ma mère avait un sens inné de la décoration, c'est-à-dire qu'avec un rien, c'était merveilleux, c'était un lieu agréable, c'était tout était beau, et c'était une fana de la brocante, des antiquaires. Elle passait, dès qu'elle avait un moment, elle allait même jusqu'à Nice et plus loin pour acheter des aussi bien des meubles que des objets. Et puis à un moment, elle a tellement acheté que l'auberge, il y avait tout ce qu'il fallait, qu'elle a ouvert deux magasins d'antiquités, un dans le village et un dans l'auberge. La peinture m'a aussi énormément marquée, parce que d'abord, je la vois. Donc, j'ai un souvenir de mon premier tableau, parce qu'en fait, je faisais des tableaux toute petite. J'utilise la peinture à l'huile et à l'essence de térébenthine. Quand je rentre dans un atelier où on a utilisé l'huile et l'essence de térébenthine, il y a cette espèce d'odeur qui se dégage. Je suis fan de cette odeur. Comme j'adore l'odeur des travaux. Parce qu'elle faisait beaucoup de travaux, ma maman aussi. Elle était une fan d'acheter des maisons et de faire des travaux. Alors, cette odeur de plâtre aussi, tout ça, ça me remet dans mon enfance. Et donc, j'ai commencé à peindre avec maman. Souvenir, je pense, le plus ancien, ça remonte à l'âge de 6 ans. Je fais sans doute mon premier tableau à l'huile, un petit tableau. Il est toujours dans la famille. Et c'était un jour, une année où il avait énormément neigé. Je ne sais pas si c'est 1955 ou 1956.
On vous en veut pas.
Vous m'en voulez pas. La Provence est couverte d'un mètre de neige. Sur les tables extérieures, c'était des tables rondes, vous savez, en fer forgé, comme à l'époque. Ça me faisait rêver, cette neige épaisse sur les tables. Donc, je commence à faire un petit tableau, comme ça. Je commence à dessiner et à essayer de rendre sur ce tableau ce que je voyais. Je n'y arrive pas. Ça me reste toujours dans la tête, c'est inouï. Je n'y arrive pas. J'arrivais pas à faire ces tables avec cette neige. Finalement, c'est devenu des danseurs. Alors, c'est un tableau, un petit tableau, où il y a trois danseurs. Parce que les tables, finalement, avec la neige, deviennent comme des espèces de tutus, et je fais des petits personnages. Parce que je n'arrive pas à rendre ce que je vois aussi bien sur la toile. Alors, elle aimait beaucoup les corridas, on y allait assez souvent, enfin, assez souvent, 3-4 fois par an, aussi bien à Nîmes qu'à Arles. D'ailleurs, j'ai rencontré Picasso, j'ai rencontré Ava Gardner, pour ça que ma petite fille s'appelle Ava. Parce que à l'époque d'ailleurs, Ava Gardner avait épousé un torero qui s'appelait Dominguez, je crois, qui toréait et il lui lançait. C'était extraordinaire. Et les couleurs, parce que je me rendais pas compte, j'étais petite, je me rendais pas compte de la mort de l'animal et tout. Enfin, maintenant, je vais plus au corrida, ça ne me plaît plus. Mais là, ce qui me plaisait, c'était de voir les chevaux rentrer, les toreros rentrer, les couleurs des costumes. Et j'avais fait aussi un tableau qui a disparu, où j'avais fait la corrida. J'avais fait plein de petits tableaux formidables à l'époque qui ont disparu, sauf les danseurs de la neige.
Et vous avez continué de peindre?
Alors, j'ai arrêté beaucoup, parce que vous savez, la peinture, c'est pas quelque chose qu'on peut faire en faisant autre chose. La peinture, moi je peux rester 3 jours sans rien faire. Je tournicote, j'ai pas d'idée, je sais pas, et tout d'un coup, je me lance. Et bon, je me fatigue maintenant beaucoup plus qu'avant. Donc, si je dois faire un tableau, si je compte le temps, c'est sur 3-4 jours que je travaille. Mais toutes ces peintures, j'ai jamais eu d'atelier. à Paris. Ça n'a jamais été possible. Donc, ça m'a énormément
coûté. Et vous n'aviez pas le temps.
Et j'avais pas le temps non plus.
Mais depuis 2013, Olympe Versigny, vous avez un peu plus de temps, puisque la Casa Olympe, vous l'avez fermée en 2013. On n'a pas dit pourquoi, d'ailleurs.
Ben, j'ai vendu, parce que j'avais décidé de m'arrêter à cette époque. En 2013, j'avais 63 ans. Et de toute façon, il n'était pas question que je fasse des fausses sorties, comme au théâtre. Je pars, je reviens, mais il y en a beaucoup qui font ça en cuisine aussi. Donc, moi, j'avais décidé qu'en fait, je quittais à partir de 60 ans. Je me décidais de vendre. Alors, j'ai dû mettre en vente un an et demi, j'avais 62 ans, et dès que j'ai vendu, j'ai arrêté. Je voulais plus du tout avoir de restaurant, c'était terminé pour moi. Cette époque était révolue.
Et donc vous vous êtes là consacré à d'autres passions?
Ah voilà, alors je me suis consacrée à d'autres passions, les voyages. Même à l'époque où j'avais le restaurant, par goût et parce que j'avais aussi une sœur qui vit d'ailleurs toujours à Buenos Aires, qui est née à Buenos Aires et qui a toujours vécu en Argentine, je suis allée en Argentine et j'y suis retournée. Et un jour, je me dis, je veux acheter une maison en Argentine, à Buenos Aires. Sur ce, je ferme le restaurant au mois d'août et je me dis, là, le mois d'août, il faut que je me décide. J'achète une maison. Je suis partie en Argentine et j'ai acheté une maison à Buenos Aires. J'ai gardé cette maison quelques années, environ 13 ans. Dès que j'avais des vacances, le temps, j'allais passer un mois et demi en Argentine. Et j'ai adoré l'Argentine. Je l'ai fait du nord au sud et de l'ouest en est. D'abord, les Argentins de Buenos Aires sont absolument extraordinaires. La ville est superbe. C'est très gai, c'est... Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe dans cette ville. Elle est incroyable. Et... la nature est fabuleuse. Tous les lieux sont beaux, la Patagonie, le nord de l'Argentine, Salta. Ça m'a pris un certain temps.
Et la cuisine?
Et la cuisine...
Argentine?
Oui, j'ai appris quelques plats argentins, dont le locro, qui est dans le livre.
Qui est dans le livre Olympe, une cuisinière libre, signé Anetor.
Et j'ai un ami que j'ai rencontré à Buenos Aires, mais qui en fait vivait à Paris depuis très longtemps, qui était professeur de tango, et qui est devenu cuisinier à Paris. Et c'est lui, on le voit dans le livre, il s'appelle Mathias. Et lui, c'est le roi des empanadas, parce qu'il est, sa famille est de Salta. Et les meilleures empanadas du monde sont faites à Salta.
C'est quoi les empanadas?
Les empanadas, on peut dire que ce sont des pâtés chauds. C'est genre des rissoles, vous voyez. C'est une farce de viande cuite, mise dans une pâte, faite avec de la graisse animale, de la farine et de l'eau, ou on les fait frire, ou on les met au four.
Comme un chausson.
Comme un chausson, et c'est absolument divin.
Et après l'Argentine, puisque vous n'avez pas gardé votre maison au-delà de 12-13 ans, Olympe Versigny, après l'Argentine, il y a eu, et il y a désormais, le sud de l'Italie, les Pouilles, le Salento, où vous avez acheté une maison que vous avez entièrement retapée, vous allez nous raconter ça, et vous l'avez intitulée, appelée, elle a un nom, cette maison, elle s'appelle le Palazzo Citron.
Oui, le Salento est dans le sud des Pouilles, à partir de la ville de Lecce, jusqu'au bout du talon de la botte, c'est le Salento. Et je dois dire qu'en fait, je m'y suis trouvée comme chez moi. J'ai une capacité d'adaptation, ne parlant aucune langue. J'ai malgré tout une grande capacité d'adaptation. J'ai été en Argentine pendant 13 ans et je ne parle pas un mot d'espagnol. Et depuis que je suis
ça
en
vous
Italie,
fait rire.
Oui, ça me fait rire. Et depuis que je suis en Italie, je n'ai jamais aussi bien parlé l'espagnol. Je ne parle pas un mot d'italien. Mais ça ne m'a pas empêché de voyager et j'ai découvert dans ce Salento une vie décalée, c'est-à-dire que j'ai l'impression que je vis les années 60 en France. Il y a une telle liberté. Les gens s'arrêtent avec leur voiture, ça ne dérange personne, ils s'arrêtent, ils discutent. Et on est derrière, et patience, tranquille, et on accepte, et c'est merveilleux. On se gare où on veut, on circule comme on veut. Les gens, les Italiens, sont absolument charmants, adorables. J'ai été reçue là-bas avec une telle gentillesse que c'est un rêve pour moi. Je m'y suis fait des amis, alors des amis qui parlent aussi le français, évidemment.
Ça veut dire, Lambersini, que vous avez fait une nouvelle vie dans le Salento. Vous êtes tombé aussi sur une ruine, hein, je crois qu'on peut le dire comme ça, que vous avez retapé en palais, puisque vous l'avez appelé le Palazzo Citron.
En fait,
il y a beaucoup de citrons aussi.
Il y a un jardin d'agrumes formidable. Là, je vais arriver, j'ai des oranges sanguines, j'ai les oranges. J'ai deux citronniers. L'année dernière, il y a dû y avoir 500 kilos de citrons avec deux citronniers qui ont duré très très longtemps. En plus, ce sont des citronniers qui ont été plantés il y a extrêmement longtemps, qui n'ont jamais été traités. Et donc, on mange la peau, on mange tout. Ils sont formidables.
Donc, cette maison.
Oui. Alors, cette maison était loin d'être une ruine. En revanche, elle avait cette qualité. En fait, moi, j'appelle ça le Palazzo Citron. C'est ce qu'on appelle en Italie la maison sur cour. En fait, c'est une maison où il y a une cour intérieure qui dessert différentes pièces, un peu comme en Afrique du Nord. Et il a été partagé en deux par la famille et j'ai acheté la moitié de ce lieu. Ce lieu est pour moi un palais parce que il y a des plafonds qui font 6 mètres à 7 mètres de hauteur de plafond avec des voûtes et tout. C'est absolument extraordinaire. Et c'est pour ça que je l'ai appelé le Palazzo Citron.
Et ça explique aussi, puisque vous allez y vivre à plein temps, à partir de maintenant, au Lambersini, ça explique que votre appartement parisien soit vidé, que vous soyez en plein déménagement et que nous soyons dans un hôtel du 18e arrondissement de Paris, entre deux salles de concert, un hôtel et des salles de concert tenues par votre fils Abel, pour enregistrer ces émissions. Donc votre appartement est vide et pourtant, on aurait bien aimé le voir parce que je pense que vous avez aussi hérité de votre mère ce goût pour les brocantes, les antiquaires, les galeristes et donc la décoration intérieure. Alors peut-être, puisque nous n'avons pas vu votre appartement parisien, parlez-nous de votre palazzo qui vous attend, le Palazzo Citron, et de la décoration que vous avez choisi de mettre là-bas.
Alors, la décoration qui a été choisie pour ce lieu est une décoration assez baroque, parce que les pièces s'y prêtent très bien, grâce à ces voûtes et à ces hauteurs de plafond. Et moi, j'aime le baroque aussi. J'aime les années 50, les années 60, mais j'aime le baroque, j'aime le doré, j'aime le velours. Donc, il est fait dans ce style-là. Alors, j'ai beaucoup chiné, parce qu'à l'époque, quand j'ai acheté le lieu, c'était le Covid, et je filais avec ma voiture, qui était immatriculée en France. J'avais une valise dedans. Et si on m'avait arrêté, je disais, je rentre en France. Et donc, je faisais toutes les pouilles pour acheter beaucoup de meubles. Et donc, c'est aussi, comment dit-on, c'est aussi meublé de cette manière.
Donc, la brocante, les antiquaires, c'est vraiment...
La céramique.
La céramique.
Je suis fan de céramique.
C'est vraiment ce qu'on appelle l'art de vivre.
Hein, c'est l'art de vivre. Et je dois dire que, par exemple, dans le dernier restaurant... J'avais un service par saison, c'est-à-dire que l'hiver, c'était le service d'hiver, l'été, c'était le service d'été, etc. Donc, il y avait 4 styles d'assiettes et d'objets pour la table, 4 fois par an. Après, j'ai un peu réduit, parce que c'était complexe, hein, malgré tout, de les retrouver déjà et de les mettre en route. La vaisselle, pour moi, c'est extraordinaire, donc j'ai gardé, malgré tout, j'en ai beaucoup vendu, mais j'ai gardé une collection de vaisselle que j'ai en Italie aussi. Et j'ai acheté en Italie de la vaisselle de la région ancienne.
Vous portez une bague en forme d'œil et vous portez un collier. Est-ce que c'est de votre fabrication? Parce que vous êtes aussi une créatrice de bijoux, Olivier Lambersini.
Alors, les bijoux, comment ça commence? C'est très étonnant parce que ça commence déjà... Quand j'ai vendu mon restaurant, il faut que je m'occupe les mains. J'ai l'impression que je ne fais rien de ma vie si je ne peins pas, je ne fabrique pas et tout. Et en fait, pour moi, être arrivé au bijou, c'est de la cuisine. Il faut souder, il faut dorer, il faut... Enfin, c'est pas moi qui dore, hein. J'envoie chez des doreurs, il faut argenter, etc. Mais c'est de la cuisine. La peinture, c'est pareil. La peinture, c'est quoi? C'est des pigments, des épices et tout qu'on met sur des tableaux. Sur de la toile. Le bijou, en fait, ça a démarré. Je suis partie, à l'époque, je partais 2 fois par an aux États-Unis parce que ma fille vit. Et je suis allée une fois dans un désert absolument extraordinaire, très peu fréquenté. J'étais, pour ainsi dire, des centaines d'hectares, mais on devait être 10 là. Et à un moment, je vois une pierre tellement belle, prise dans un gros bloc de pierre, et je me dis, ça, on dirait un bijou. Je fais la photo de cette pierre, parce que je pouvais pas partir avec, parce que c'était des tonnes. Et je me dis, ça, j'ai envie de faire des bijoux. Et c'est à la suite de ça que je décide de faire des bijoux. Mais évidemment, je ne sais pas, j'en ai jamais fait. Je rencontre, c'est un ancien ami de ma fille, Sarah, qui travaillait à cette époque-là pour une compagnie qui fabrique des bijoux pour Chanel et autres. Donc, il est très pointu. Et c'est lui qui m'a appris. Voilà. Les premiers bijoux qui ont été faits, je faisais et les dessins, j'achetais les pierres, je choisissais les pierres. À la suite de ça, il faisait, je lui disais plus comme ci, plus comme ça, etc. Petit à petit, j'ai appris. Et maintenant, je fais les bijoux toute seule.
Vous les faites pour vous, vous les vendez?
Je les vends aussi. Mais je suis pas une bonne vendeuse. Parce que moi, ce que j'aime, c'est faire, si vous voulez. Les bijoux ont plu beaucoup à une femme qui a un magasin de bijoux d'artistes. Et là, j'étais extrêmement fière que quelqu'un qui est si pointu ait aimé ce que je faisais. Voilà. Et puis après, j'ai arrêté de travailler avec elle. Parce que l'Italie m'a pris aussi beaucoup de temps, parce qu'il a fallu faire des travaux, des constructions, les meubler, s'y installer et tout. Et tout est fini, enfin, depuis le mois de novembre dernier.
2024.
Et là, j'ai fait un atelier, où j'ai installé mon atelier pour les bijoux et mon atelier pour la peinture. Et ça, c'est le rêve de ma vie, parce que je n'en ai jamais eu. Parce que ce qui est extraordinaire quand on fait quelque chose, c'est qu'on ne range pas. Il faut pas ranger.
Et la cuisine, Olympe Versigny, j'ai cru voir en regardant vos comptes, notamment votre compte Instagram, que vous utilisez comme un blog culinaire, qu'elle vous intéresse toujours, la cuisine.
La cuisine me quittera jamais. La cuisine m'intéresse toujours. Et comme je ne prends jamais de petit déjeuner, je ne déjeune pas, je dîne. Donc je mange une fois par jour. Je commence à faire ma cuisine à 7h30, 8h. Et je fais tous les jours un plat différent. Je me fais la cuisine pour moi, pour ma famille et pour mes amis. D'ailleurs, dans l'Instagram que j'ai, pour me repérer, parce que cet Instagram, maintenant j'ai zéro mémoire. Zéro mémoire de nom de lieu, zéro mémoire de nom, zéro mémoire d'image. Donc ça me sert de répertoire pour me souvenir des lieux et pour me souvenir des recettes, parce que je ne note rien. Et donc, il y a dans cet Instagram environ maintenant au moins 800 recettes que j'ai faites et qui m'ont servi d'ailleurs pour les quelques recettes italiennes de ce livre.
Du livre qui vous est consacré. Est-ce que vous allez au restaurant ?
Alors, je vais au restaurant peu, je dois vous dire. D'abord parce que je n'ai pas les moyens d'aller tous les jours au restaurant. Et que deuxièmement, mon grand bonheur aussi, c'est d'être chez moi. Parce que la cuisine m'a pris, et j'ai vécu quand même dans une auberge. Donc, tout ça m'a pris beaucoup de ma vie, c'est-à-dire 55 ans de ma vie. Et ce que j'aime, c'est rester chez moi, traînasser, lire et faire mes bijoux, et bricoler, et ranger. C'est ce que j'aime le plus, finalement. Mais j'aime aussi sortir, parce que je sors malgré tout, mais je sors dans les restaurants que j'aime et pour y voir aussi des amis.
Dans le Salento, on y mange bien? C'est une terre de gourmandise et de bonnes choses?
Alors, il faut quand même savoir que là, moi, je suis dans le Salento depuis 5 ans, et que quand on dit que c'est formidable, non, la cuisine formidable de l'Italie, elle est dans le nord. Elle s'arrête à Napoli, à la limite. Le Salento a été toujours une région extrêmement pauvre, très très pauvre. Et ce qui est très étonnant, ce sont presque des insulaires. Et il faut savoir que comme la Corse, que je connais bien pour la cuisine, à l'époque, les insulaires ne mangent pas de poisson. Ils se nourrissent d'olives, d'huile et de pain. Ça a été leur nourriture de base. La Corse est pareil, farine de châtaigne, charcuterie, quand ils en faisaient, qui avaient un peu d'argent pour avoir des animaux, huile d'olive et pain. Et le Salento a gardé ça, donc il n'y a pas beaucoup d'inventions de cuisine. Il y a quelques plats qui sont bons et intéressants, mais il est aujourd'hui très difficile malgré tout de trouver des bons produits. C'est assez difficile, il faut se battre, et moi parfois je fais une heure aller, une heure de retour pour aller acheter du poisson en voiture.
Il n'est pas question que vous ouvriez votre restaurant?
Non, il n'en est pas question. Bon, jamais de la vie. Cauchemar.
Vous nous disiez dans l'épisode précédent que vous trouviez que la cuisine a changé ces dernières années.
Alors oui, d'abord, je suppose que la cuisine a changé parce que, comme je vous disais, les jeunes partent partout. Ils vont dans tous les pays du monde et donc ils sont enrichis aussi de toutes les manières de cuisiner. Et il y a eu aussi, se retourne beaucoup au végétal, ce qui n'était pas le cas à notre époque. Le premier cuisinier qui a fait que du végétal, c'est Alain Passard. Bon, il faisait pas que ça, puisqu'il fait de la volaille, il fait du poisson, etc. Mais ça n'était pas... Et je vois que dans les restaurants, on mange beaucoup de végétal, ce qui n'était pas le cas. Le végétal était un accompagnement. Maintenant, ça peut être un plat. Et puis le vegan prend aussi de la place. On a moins envie de manger de viande et même de poisson. Ces produits-là restant des produits aussi très chers. Alors, il y a aussi une chose. Les réseaux sociaux ont fait aussi, et ça me déplaît un petit peu, c'est-à-dire que finalement, on trouve toujours partout un peu la même chose. Quand c'est la mode du poulpe, vous allez dans tous les restaurants parisiens et du monde et vous mangez du poulpe. Et ça, moi, le poulpe me sort par les yeux. Bon, chacun regarde les réseaux sociaux et comme l'on poste toujours, ça fait le tour et ça devient des produits mode, des produits mode, des produits mode. Et ça, c'est un petit peu fatigant parce qu'on retrouve un peu partout la même cuisine.
Qu'est-ce que vous pensez de la place des femmes dans le monde de la gastronomie, en cuisine? Est-ce qu'on a fait des progrès de ce point de vue-là depuis votre époque?
On pourrait croire qu'on a fait des progrès parce qu'il est évident qu'aujourd'hui, il y a plus de femmes dont on parle. Parce qu'à l'époque, je crois que la seule 3 étoiles était une Italienne.
Aujourd'hui, on en a une en France qui s'appelle Anne-Sophie Pic.
Anne-Sophie Pic.
Mais c'est la seule encore.
Je crois que c'est la seule. Donc, il y a des femmes qui ont accédé à, justement, au nec plus ultra de la reconnaissance de leur cuisine. Il y a Hélène Darroze et il y a d'autres femmes, dont une femme, je trouve, alors que je ne suis pas pour cette cuisine, parce qu'on goûte beaucoup de plats, et que j'ai trouvé absolument extraordinaire et délicieux, c'est Le Kelec.
Stéphanie Le Kelec.
Stéphanie Le Kelec, je l'ai rencontrée au Festival de Cuisine de Gaudry, à Uzès. On a parlé beaucoup de cuisine, et avant de parler de cuisine avec elle, il fallait que je connaisse sa cuisine. Et là, j'ai fait un déjeuner absolument merveilleux. Je le lui ai dit, et je le dis parce que ça a été vraiment quelque chose d'une simplicité diabolique, mais souvent, la simplicité, c'est comme dans la peinture. Il y a un livre de Matisse qui s'appelle Matisse, l'apparente simplicité. Tout le monde se dit, Matisse, moi, attendez, si je dois faire de la peinture, Matisse, je vais faire une fleur et tout ça, mais non, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et dans la cuisine de Stéphanie, j'ai trouvé ça parce que c'est des bouillons très simples, une sauce très simple, mais qui est diabolique. La cuisson d'un produit est diabolique. Tout est bon. Et ce que j'aimerais, c'est retourner chez elle et avoir chaque fois une énorme assiette de ces plats.
Olympe Versigny, vous avez marqué toute une génération. Les grands chefs de l'époque, alors c'est quoi l'époque? Années 70, années 80, années 90 en parle encore de votre cuisine avec des trémolos dans la voix. Francis Ford Coppola a fait une dédicace au livre d'Anne Etor en hommage.
Incroyable.
À l'héritage. On va la lire.
Et c'est vraiment lui qui l'a faite avec son écriture.
On va la lire.
C'est pas du cinéma.
La Corse a donné au monde Napoléon, mais elle nous a aussi donné Olympe, une grande dame et une grande chef dont j'apprécie tant la cuisine. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une dédicace pareille.
Ça, je dois le remercier 1000 fois. Et je dois même dire qu'en fait, je suis allée chez lui à Napa Valley. À l'époque, il adorait, je faisais une glace au caramel. Et donc, j'ai fait une glace au caramel. Il avait le... Vous savez, ce batteur en bois dans lequel on faisait la glace avant, où on met des glaçons, c'est comme un tonneau. Et on tourne et on tourne. Donc, moi, j'ai fait, puis on a tourné tous les deux. Et malgré tout, c'est lui qui m'a fait des pâtes absolument diaboliques. Et il me les a même servies. Je lui en ai su aussi.
C'est quelqu'un. Et donc, juste pour finir et pour vous poser la question qui suit, Olin Versigny, on a quand même le sentiment que malgré tout ça, vous avez été un peu oublié. On vous a un peu négligé. Vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur. Est-ce que vous avez ce sentiment-là?
Alors, je dois dire que j'ai absolument jamais eu ce sentiment. Mon père m'a toujours dit, ne te prends jamais au sérieux de cette manière. Qu'est-ce que tu vois? Tu n'es que cuisinière. Il avait beaucoup d'admiration pour ce que je faisais. Et bon, il se flattait d'avoir une fille, mais bon, il se flattait aussi d'avoir un fils qui était un très grand avocat, il se flattait, etc. Mais il m'a dit, tu n'es qu'une cuisinière. Et malgré tout, c'est toujours resté dans ma tête. Ce n'est pas que je ne suis qu'une cuisinière, mais pas me comparer à des gens qui ont fait des choses extraordinaires et avoir une prétention par rapport à ça. En plus, je peux pas avoir de prétention parce que c'est tellement naturel chez moi. Je ne me force pas à faire, je ne me force pas à réfléchir sur les recettes. J'y pense pas un mois à l'avance. Je fais pas 50 essais. Et ça, je crois que ça m'a beaucoup servi. Je me suis jamais prise au sérieux. D'ailleurs, je déteste en fait ça. J'aime même parfois me moquer de moi. Et donc, ça ne m'a jamais gênée. J'avais des clients dans mon restaurant. Moi, ce qui m'intéressait, c'était ça. Je n'ai jamais pensé qu'on m'avait oublié. On m'aurait oublié. C'est Anne qui a été formidable pour venir me chercher. Et j'ai accepté pour une bonne raison. C'est que j'ai trouvé l'idée formidable, non pas pour moi. Maintenant, j'ai deux petits-enfants. J'ai une petite fille qui s'appelle Ava et qui a 5 ans et demi. Donc, le livre lui est dédié. Maintenant, j'ai un petit garçon qui a 4 mois et qui s'appelle Georges. J'ai trouvé que pour les petits-enfants, c'était quand même sympathique. Surtout qu'Ava adore faire la cuisine. Je fais beaucoup la cuisine avec elle. À l'âge d'un an et demi, elle boit l'eau des huîtres. Elle trouve ça merveilleux. Elle mange du foie gras. Il y a que la truffe, elle n'en est pas fana. Le caviar non plus.
Ah bah, donc.
Mais elle est d'une gourmandise diabolique parce que si ça n'a pas de goût, que ce n'est pas assaisonné, elle adore les anchois. Alors je lui fais des hamburgers avec des anchois au centre. C'est fantastique pour une petite fille de 5 ans.
Olin Versigny, s'il doit rester un plat de vous que vous aimez particulièrement, celui que vous préférez, que vous avez fait, c'est quoi? C'est lequel?
Alors, ce qui va rester, c'est justement ces raviolis de homard, ces pâtes aux langoustines et ces raviolis de canard, sans doute. Mais après, j'aime aussi un poulet grillé et des choses très simples.
Merci beaucoup.
Merci à vous, Caroline.
Olin Versigny, merci pour ces 5 entretiens.
Au revoir.
C'était À Voix Nue avec Olin Versigny. Réalisation Manouchak Fachaï, prise de son Benjamin Perru, chargé de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.